Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Dernier temps de notre semaine consacrée aux mutations des conditions de travail. Lundi, nous explorions les nouvelles maladies du travail, notamment le burn-out. Mardi, la protection sociale des nouveaux travailleurs du numérique, ces travailleurs ubérisés. Mercredi, le nouveau management de la Silicon Valley. Aujourd'hui, place à la cohabitation avec les robots. Métro, robots, dodo, vers l'automatisation des travailleurs. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Es-tu plus intelligente qu'un humain ?
Of course.
Bien sûr, je n'ai encore jamais rencontré un humain aussi intelligent que moi.
Nous constatons déjà qu'utiliser l'intelligence artificielle aide les cancérologues ou les différents centres de traitement du cancer. Grâce à la puissance de Watson, ils peuvent aller du génome d'un patient au choix du meilleur traitement en 3 à 5 minutes.
On surveille à peu près 350 sources, le New York Times, le Washington Post, l'agence France Presse. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que donc on a une plateforme interne. À chaque fois que vous voyez une bulle exploser là-dessus, c'est qu'on a attribué un nouveau signal à un article. Et c'est sur la base de ce paquet d'informations qu'on va ensuite générer nos articles.
La note du risque de récidive est de 5, ce qui est quasiment le maximum. Donc l'algorithme recommande l'emprisonnement parce que le prévenu est notamment accusé de possession illégale d'armes à feu.
De plus en plus, les robots, automates, machines et autres intelligences artificielles s'imposent dans nos vies. Selon un récent rapport de l'OCDE sur l'avenir du travail publié en avril dernier, 14% des emplois seraient menacés par la robotisation dans les 15-20 prochaines années et 31,6% des postes seraient profondément transformés par cette automatisation des tâches et notamment ces intelligences artificielles désormais capables d'assumer des tâches que jusqu'il y a peu encore, nous étions les seuls à assumer, chauffeurs, banquiers, mais aussi bientôt professeurs ou journalistes. À n'en pas douter, la révolution technologique de l'intelligence artificielle a rencontré l'histoire de la mécanisation. Et au-delà de l'emploi, c'est bien le monde du travail lui-même qui s'en trouve bouleversé. Alors, les machines vont-elles tous nous mettre au chômage ? Ou les nouvelles technologies de l'information et de la communication vont-elles plus simplement nous pousser vers d'autres activités ? Comment nos sociétés peuvent-elles s'adapter à ces évolutions du marché de l'emploi ? Comment les travailleurs vont-ils cohabiter avec les robots ? Et que découvre-t-on de la machinisation de l'homme dans les formes contemporaines du travail ? Pour évoquer toutes ces questions. Nous avons invité Jean-Michel Beignet, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Il nous fallait un philosophe, nous en voilà un. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, co-auteur avec Laurent Alexandre de « Les robots font-ils l'amour ?» Le transhumanisme en 12 questions, c'était aux éditions Dunod. Et puis également « L'homme simplifié » qui était paru chez Fayard en 2012, on aura l'occasion d'en parler. Thierry Veil, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur à Mines Paris Tech et puis conseiller du laboratoire d'idées, la fabrique de l'industrie. Vous êtes co-auteur, vous, de Portrait travailleur, comprendre la qualité de la vie au travail qui était paru aux presses des mines. Il y a deux manières de voir le problème qu'on se pose aujourd'hui et de voir ce que pourraient au fond produire les technologies sur le marché du travail. On a d'un côté des techno-pessimistes qui penchent pour un scénario par lequel les machines, dont les capacités, on le sait, ont été considérablement démultipliées par la révolution de l'intelligence artificielle, eh bien détruiront massivement des emplois et jetteront des millions de personnes dans la pauvreté, dans les conflits sociaux, dans l'instabilité politique. Et puis, il y a l'autre manière de voir les choses, avec des techno-optimistes qui, eux, considèrent que eh bien les machines vont nous libérer des tâches les plus ingrates et que nous pourrons enfin nous consacrer aux activités qui nous passionne vraiment. Jean-Michel Beignet, pour lequel de ces deux scénarios optez-vous ? Vous avez le droit de dire un troisième scénario.
Oui, hein ? D'une façon générale, je déteste les alternatives closes, le binarisme. Hein, je fais presque métier de lutter contre cette espèce d'injonction à choisir blanc ou noir, et entre techno-progressisme et techno pessimisme, hein, si c'est les termes que vous avez employés, je dirais que je ne choisis pas. Hein, je me borne à constater, en reprenant l'information que vous avez donnée concernant le rapport de l'OCDE, je me borne à constater que aujourd'hui, on s'habitue à l'idée que 86% des activités que nous menons encore sont automatisables, et si elles sont automatisables, elles seront bien mieux remplies par des robots que par des humains. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ce constat ? Alors évidemment, on peut soit jubiler et dire « chouette, demain on ne travaillera plus », ou bien on peut, et c'est plutôt vers cette position que je penche, on peut se dire que en perdant le travail, on perd sans doute une dimension profondément humaine, que j'appelle la fonction symbolique. On perd donc quelque chose de profondément humain, et que c'est ça sans doute qui est le dommage le plus grand dont nous affectent les technologies.
Nous reviendrons évidemment sur la capacité que nous avons justement à accepter ce processus d'automatisation, de robotisation de notre environnement. Thierry Veil, est-ce que vous faites le choix entre l'un des deux scénarios que j'ai évoqués, ou est-ce que vous aussi vous choisissez une troisième voie, une voie peut-être médiane, qui d'ailleurs, comme très souvent en réalité quand on regarde les choses, il est très probable que le monde soit assez largement inégalement impacté par ces formes d'automatisation en réalité?
Oui, alors je ne suis pas plus binariste que Jean-Michel, et franchement, rien n'est écrit. Bon, d'une part, effectivement, les machines, au sens large, c'est-à-dire y compris les logiciels, vont pouvoir réaliser certaines tâches qui jusqu'ici étaient des tâches réalisées par les humains. Mais ça, je dirais, ça s'est produit de manière fréquente dans l'histoire. Il y a un siècle et demi, il fallait que plus de la moitié de la population soit agriculteur pour que l'ensemble de la population puisse manger à sa faim. Aujourd'hui, on fait ça avec 2%, 3% maximum de la population occupée à cultiver pour nourrir les autres. Et on mange... sinon aussi bien, en tout cas plutôt plus à notre faim. Donc, et ça ne veut pas dire que les 98% sont dans un état de dépression, de déréliction, du fait qu'ils ne cultivent plus la terre comme leurs arrière-grands-parents. À chaque fois qu'il y a eu des gains de productivité dans l'activité agricole, dans l'activité industrielle, on s'est mis à faire autre chose de notre temps, y compris faire des études plus longues, y compris passer plus de temps à des activités culturelles, y compris prendre le temps d'écouter France Culture. Bon, c'est pas en soi forcément un drame. En revanche, je ne fais pas partie des techno-optimistes qui disent « il n'y a rien à voir, on est toujours retombé sur nos pattes après une révolution technologique » parce que on a parfois mis une ou deux générations à retomber sur nos pieds, et parfois il y a eu des épisodes de grande souffrance avant que les choses ne se réajustent. Quand il y a eu la révolution industrielle, il y a eu un lumpen prolétariat dans les villes, de l'exode rural, et des tas de phénomènes transitoires et une grande souffrance. Donc on n'est pas à l'abri... de ce genre de mutation non plus. Donc rien n'est écrit, et selon la manière dont on arrivera à accompagner ces mouvements, ça se passera bien pour tout le monde ou plus difficilement.
Jean-Michel Beignet, Thierry Veil a raison de nous rappeler que finalement, c'est pas la première fois dans notre histoire qu'on est confronté à ce genre de révolution. La robotisation, l'automatisation, que ça soit dans le secteur industriel, dans le secteur de l'agriculture, c'est pas nouveau. Mais quand même, il y a quelque chose qui semble un peu nouveau là. Alors il va falloir peut-être mesurer les choses, mais c'est l'intelligence artificielle. On sent quand même qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau. Est-ce que vous diriez que finalement, on a déjà connu ce genre de révolution et rien de neuf? Ou est-ce qu'au contraire, il vous semble que dans la nature même de cette révolution, on a quelque chose d'un peu inédit? Je ne sais pas, peut-être une révolution d'ordre anthropologique, civilisationnel. Enfin, il y a quelque chose de nouveau là avec cette oui, émergence de l'intelligence artificielle.
Oui, je crois qu'on assiste à une mutation anthropologique. L'image que l'humain se donne de lui-même à travers ces technologies est une image qui est dévaluée, dégradée. Je pourrais l'expliquer simplement en disant que on fait prédominer aujourd'hui une société automatique. En faisant prédominer une société automatique, on en vient à privilégier des valeurs qui sont des valeurs de réactivité plutôt que de réflexion ou de jugement. Et si je pousse le bouchon un petit peu loin, je dirais que on est en train de rêver, de réaliser une société animale, hein, animal au sens où les individus sont dépouillés de leurs attributs proprement humains, la vie intérieure, la possibilité de projeter des idéaux, le langage, l'intelligence en tant qu'elle s'oppose aux instincts.
Mais enfin, en quoi l'intelligence artificielle nous couperait de tout cela ?
Ben, l'intelligence artificielle, elle nous coupe de tout cela dans la mesure où elle fait prévaloir des mécanismes, des algorithmes qui ne permettent pas, hein, précisément cette distanciation que nous autorise, par exemple, le langage ou l'intelligence. Prenez l'intelligence. Là, on fait prévaloir un concept d'intelligence qui, globalement, est l'adaptation à des contraintes imposées par l'environnement. Hein. Être intelligent, c'est s'adapter, ne cesse-t-on de dire. Mais bon sang, que je sache, l'intelligence, c'est d'abord la possibilité de mettre à distance les instincts, c'est la possibilité d'ajourner, hein, de contourner. C'est cette intelligence-là que, spontanément, on privilégie, par exemple, quand on éduque des enfants. Cette intelligence, on n'en parle pas. L'intelligence artificielle est la négation même d'une intelligence qui mettrait à distance les automatismes.
Thierry Veil, je reviens peut-être un instant sur le rapport de l'OCDE que j'évoquais avec cette disparition possible de 14% des emplois à cause de cette automatisation des tâches. Mais quand on regarde les études, on voit qu'il y a des travaux beaucoup plus alarmistes. Certains prédisent même des destructions d'emplois jusqu'à 50% des emplois qui existent. Est-ce qu'on a une petite idée ? Est-ce qu'on peut mesurer justement ce nombre d'emplois qui pourraient être détruits dans les 20-30 prochaines années à cause précisément de cette automatisation, de cette robotisation et de cette émergence de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on peut mesurer ça ?
Alors, les chiffres varient énormément selon les sources, et je ne parle que des sources sérieuses, donc si on peut le mesurer, c'est en tout cas pas très facile. Il faut en tout cas bien distinguer les tâches qui peuvent disparaître. Je dis les tâches et pas les emplois, parce que quand les sténodactylos ont cessé de prendre sous la dictée, taper sur des machines à écrire, ça n'a pas été la fin du courrier, simplement on l'a fait autrement avec des ordinateurs et des traitements de texte. Donc il y a effectivement des tâches qui disparaissent ou des emplois qui sont bouleversés. Et là, le chiffre de 31% de postes transformés que vous citiez tout à l'heure de l'OCDE me paraît un chiffre modeste. Je pense que une beaucoup plus grande partie d'entre nous va dans une partie de son activité, professionnelle et non professionnelle, devoir s'adapter à de nouveaux outils, mais on le fait en permanence. La manière dont on conduit, depuis qu'il y a du GPS et depuis qu'il y a des logiciels de guidage, n'est plus la même qu'avant. De ce point de vue-là, je dirais c'est peut-être quasiment 100% des gens qui vont avoir leur activité quotidienne un peu bouleversée et des habitudes qui changent beaucoup par rapport aux technologies. Ensuite, il y a les emplois réellement menacés. Là, les chiffres varient, mais on est plutôt, alors selon les rapports, les plus alarmistes sont plutôt, enfin, l'OCDE à 14% est dans la moyenne. Il y a même des gens qui prédisent un solde net positif d'emploi. Il y a une étude de McKinsey qui dit oui, mais pour faire les robots, pour mettre en place tous ces nouveaux logiciels, toutes ces nouvelles applications, ça crée de l'emploi.
Oui, on est dans la lignée de la destruction créatrice schumpeterienne.
Tout à fait. S'il y a 15 ans, on avait parlé d'emploi de développeurs d'applications pour des smartphones, tout le monde aurait dit de quoi s'agissait-il, puisqu'il y a 15 ans, les smartphones n'existaient pas. Donc on ne concevait même pas qu'une partie des gens passerait du temps à développer des applications pour un objet dont, à part quelques personnes, personne n'avait l'idée.
Donc vous avez confiance, vous vous dites que ces transformations, elles vont aussi aboutir à la création de nouveaux emplois.
Il va y avoir la création de nouveaux emplois, il peut y avoir aussi la création d'activités hors emploi. J'ai pas l'impression qu'on soit à l'aube d'une crise anthropologique et d'une grande dépression où on n'aurait plus rien à faire et plus de travail au sens, je prends la définition de Jean-Baptiste de Foucault, d'une activité utile aux autres et pour lesquelles d'autres sont prêts à payer d'une manière ou d'une autre, en argent ou autrement. Qui est quand même effectivement un fondement anthropologique de la personne, de pouvoir avoir une partie de son activité tournée vers l'agrément des autres et auquel les autres attachent un prix.
Il y a quand même un défi qui est associé à ces transformations que vous évoquez, Jean-Michel Beignet, c'est celui de la formation. Parce que pour s'adapter justement à toutes ces transformations, il va falloir former des gens. C'est déjà difficile quand on a un marché du travail à peu près stable et qu'on sait finalement ce dont on a besoin. Quand on ne sait pas exactement ce dont on a besoin, Jean-Michel Beignet, c'est un défi colossal. Comment est-ce qu'on va faire pour s'adapter à ça, pour former les gens? Vous êtes professeur vous-même. C'est votre métier que de former les gens.
Ben oui, c'est mon métier, c'était mon métier de former des gens. Et les former, c'était précisément développer la dimension critique, l'esprit de jugement, l'esprit de distanciation, de mise en perspective. Ce sont toutes ces vertus-là que l'on cherchait à développer à travers l'enseignement de la philosophie, mais pas seulement. Tous les enseignements étaient conditionnés par cela. Hein. Les psychologues disaient autrefois, au fond, qu'est-ce que c'est que éduquer un enfant ou l'instruire? C'est l'habituer à se décentrer, être capable de se décentrer, hein, de voir le monde avec d'autres lunettes que les siennes. Bon, ben, il va de soi qu'à partir du moment où on nous dit qu'il faut s'adapter, qu'on n'a plus le choix, qu'il faut aller très vite parce que on va perdre dans la concurrence internationale. À partir du moment où on se dit ça, effectivement, il y a qu'une seule chose à faire, c'est faire en sorte que les individus s'adaptent au déferlement de l'intelligence artificielle, faire en sorte que ils comprennent ce dont il s'agit dans le développement de l'intelligence artificielle. Et puis, bah, très très brutalement, il faut leur apprendre le code. Faire du code. Et ça se dit de manière de plus en plus cynique, de la même manière qu'il se dit de façon cynique dans les plus hautes sphères que aujourd'hui il faut envisager l'enseignement simplement comme transmission de connaissances, transmission d'informations. Hein, donc, du point de vue philosophique qui est le mien, ça veut dire simplement qu'il faut assujettir de plus en plus les individus aux signaux, au monde des signaux que nous développons, hein, faire en sorte qu'ils sachent traiter des signaux. Et c'est pas du tout dans cet esprit-là que j'ai été formé, puisque moi, je privilégiais les signes, c'est-à-dire ces éléments d'échange qui permettent le dialogue entre les individus. Là, on n'est plus du tout dans cette perspective-là. C'est la raison pour laquelle aussi on va écraser subtilement ou pas dans les écoles toute la dimension de socialisation qui accompagnait l'école au profit de dispositifs censés informer et développer les capacités d'information.
Thierry Veil, sur ce défi de la formation, tous codeurs, c'est ça qui nous attend, il faudra former que des codeurs, plus que des codeurs.
Ah, pas du tout, non. Là, c'est peut-être le premier point de désaccord que j'ai avec Jean-Michel depuis le début de cette émission. Je partage pas du tout son pessimisme sur le contenu des aptitudes à développer et sur le contenu des formations. Et ça correspond en tout cas pas du tout à ce qu'on constate concrètement sur le terrain dans les entreprises qui s'informatisent, se robotisent. D'abord, on observe plutôt une montée en compétences de tout le monde. Ensuite, justement, plutôt de l'esprit critique, c'est-à-dire l'introduction des nouvelles technologies ne conduit au progrès de productivité escompté que si les gens se l'approprient et sont en capacité de se l'approprier. Et ça passe la plupart du temps par beaucoup plus d'autonomie des opérateurs de base. Ça passe par une détaylorisation de l'entreprise. On a cru efficace il y a un siècle de faire en sorte qu'il y ait des gens qui optimisent des processus de production très stables dans des bureaux d'études qui étaient des ingénieurs et des gens qui réalisent de manière très loyale et disciplinée ce que faisaient les autres. Or, ça ne marche plus du tout dans des entreprises qui sont complètement bouleversées par le fait qu'il faut adapter leur production à une demande de personnalisation de chaque client, donc faire des séries courtes, faire des offres adaptées, que ce soit des offres de produits ou des offres de services. Et donc, ça demande d'avoir beaucoup plus, enfin, de mobiliser beaucoup plus l'intelligence qui est à la base, l'intelligence de ceux qui font. Et de leur donner des outils pour le faire. C'est-à-dire qu'avant, les gens n'étaient pas forcément stupides, mais si je caricature, on leur demandait de faire comme s'ils l'étaient, c'est-à-dire d'appliquer les instructions. Aujourd'hui, les gens sont plutôt encore plus intelligents, parce que le niveau de formation, même si Jean-Michel pourrait contester le contenu précis de cette formation, le niveau global de formation, de qualification des gens s'élève, leur niveau d'information aussi, même si c'est une information qui manque parfois de recul critique, et donc leur capacité à mobiliser leurs compétences les plus diverses au travail augmente. Donc à la fois le taylorisme n'est plus adapté, c'était fait pour des exécutants bêtes, mais en plus heureusement les exécutants ne sont plus bêtes, donc on peut ils ont plus besoin de faire semblant de l'être, au contraire on leur demande de mobiliser de plus en plus leur intelligence.
Oui, donc voilà premier point effectivement de désaccord entre tous les deux, puisque ce phénomène-là, nous dit Thierry Veil, va plutôt avoir tendance à revitaliser au fond les critères qui font que nous sommes précisément des humains, Jean-Michel Beignet.
Ouais, moi je suis surpris, enfin je suis pas surpris qu'on puisse être en désaccord, Thierry et moi. Mais sur ce point-là, alors là, je suis vraiment très en désaccord. Moi, je crois que on n'assiste pas à une montée en puissance des compétences. Je sais que dans le monde de la société, de la sociologie du travail, on a repéré ce qu'on appelle la stupidité fonctionnelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept.
Expliquez-nous.
De stupidité fonctionnelle. Eh bien, c'est l'observation du fait que, de plus en plus, dans de grandes entreprises, par exemple dans des banques, on recrute des gens qui ont effectivement un niveau de connaissances élevé, mais on s'empresse très très vite de leur dire qu'il faut mettre ces connaissances sous le boisseau pour pouvoir être réactif avant tout. Et donc, ne pas se laisser happer par ces connaissances qui sont toujours un frein. Vous savez, c'est la même chose que ce discours qu'on entend quelquefois chez les transhumanistes qui disent simplement que la conscience, chez les humains, ça a été un avantage sélectif à un moment donné pour l'espèce et c'est devenu un handicap dans un monde de machines et il vaut mieux taire la conscience parce que elle est un frein. Et que on n'a pas le temps à perdre avec précisément des activités qui seraient des activités de délibération. Donc je crois que on crée une grande frustration en mettant sur le marché des gens qui ont encore un niveau de connaissances élevé et que l'on confronte à un univers dans lequel on leur dit bah, vos connaissances, vous les gardez pour vous, mais on vous a recruté sans doute sur la base de ces connaissances, mais maintenant, eh bien, il va falloir d'abord être réactif. Matthew Crawford, que l'on connaît bien maintenant, dans son livre « Éloge du carburateur », ne raconte rien d'autre. Il est diplômé de philosophie, il se demande que faire pour gagner sa vie, il veut pas faire d'enseignement, il veut pas faire de recherche, et il découvre que le monde de la connaissance, le monde du web, donc, est sans doute accueillant pour ses compétences. Et très très vite, ben, il découvre que pas du tout, du tout, que là où il travaille, en l'occurrence dans une agence qui produit des résumés d'articles scientifiques, on ne lui demande pas même de lire ses articles, on lui demande simplement d'écrémer ses articles, d'utiliser la ressource des mots-clés et de produire des résumés stéréotypés que personne de toute façon ne lira.
Ce qui va le pousser à quitter cet environnement et à ouvrir son propre garage, à réparer des carburateurs, d'où le titre du livre. C'est un livre passionnant. Réaction, et puis ensuite je voudrais qu'on évoque la question de notre capacité ou notre incapacité précisément à contrôler, à réguler ce phénomène de robotisation. Mais je vous laisse réagir, Thierry Veil.
Alors je voudrais dire, justement, c'est-à-dire que les fonctionnellement stupides, ils vont être très avantageusement remplacés par des chatbots. Et d'ailleurs, le travail que fait Matthew Crawford quand il résumait à la chaîne des articles qu'il n'avait même pas le temps de lire et comprendre, sinon sa productivité s'effondrait, justement, des intelligences artificielles le font très très efficacement. Ce que vient de dire Jean-Michel illustre d'ailleurs bien les choses, des fonctions considérées comme demandant beaucoup d'habileté, d'intelligence, de cadre, de profession supérieure, on découvre maintenant qu'une grande partie des choses, certes, demandaient des connaissances, mais ne demandaient pas beaucoup d'intelligence au sens d'initiative, de créativité, d'envie d'améliorer les processus ou de faire les choses mieux, et peuvent être automatisées sans que personne ne pleure, et qu'au contraire, des tâches qui étaient très répétitives, très passives, on pense aux charlots des temps modernes, vissant ses boulons à la chaîne, n'existent plus, et que les gens qui produisent aujourd'hui, c'est pas des gens qui vissent des boulons, mais des gens qui surveillent des robots en train de travailler, voient où ça va coincer, et essayent d'améliorer le processus ou de le dépanner.
Jean-Michel Beignet, quand on réfléchit un peu aux effets de cette robotisation et à l'émergence de l'intelligence artificielle sur notre marché du travail, on ressent quelques inquiétudes. On évoquait tout à l'heure la question des destructions d'emplois, et on pourrait même finalement en conclure que finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle et que ce basculement vers un nouveau monde, vers un nouveau marché du travail n'est pas souhaitable. Mais est-ce que vous pensez que ce basculement est évitable? Je veux dire que est-ce qu'au fond les conditions politiques, économiques, sociales nous permettent d'empêcher ou même de réguler, de contrôler ce changement?
Ben, c'est là où je suis sans doute optimiste, c'est-à-dire que je pense que il est possible, sans doute, non seulement de freiner, mais d'envisager les choses différemment.
Moi, alors comment, parce que je vous attendais plus pessimiste sur cette question.
Moi, je suis très attentif à quantité d'initiatives qui sont prises un petit peu partout en France et ailleurs. Par exemple, je m'intéresse beaucoup aux tiers-lieux, hein, ces tiers-lieux qui regroupent des activités, qui dynamisent des relations, qui se construisent autour de la convivialité, etc. Il en existe beaucoup. Il y a pas très longtemps, j'étais invité à un congrès qui rassemblait des tiers-lieux très abondants. Je suis très attentif aux paillasses, aux cantines, aux Fab Labs.
J'entends bien, cela est formidable, Jean-Michel Beignet, mais en quoi peuvent-elles précisément ralentir, voire empêcher les transformations qui ont déjà cours? Est-ce que ça risque pas ces lieux-là de devenir des lieux totalement marginaux et voilà?
Mais ce que j'essayais de dire, c'est que ce qui est pour l'instant marginal me semble monter de plus en plus en puissance, hein, et créer. Il y a une volonté de résistance, hein, qui est en train de se développer dans nos esprits, une volonté de résistance qui s'est manifestée encore récemment. On voit qu'il y a une coupure de plus en plus incroyable.
Il faut pas que ça soit seulement, pardon de vous couper, il faut pas que ça soit seulement dans les esprits, il faut que ça soit dans les usines, il faut que ça soit dans les bureaux. Et pour l'instant, on n'y est pas.
Bon, ben là, vous en appelez à
ah non, moi j'en appelle à rien du tout.
Ben si, vous en appelez à la révolution.
Je suis ni pour ni contre. Non, moi j'appelle à rien du tout.
Bon, ben c'est dommage. Mais en tout cas, bon, je pense qu'il n'est pas complètement, on ne vit pas sous le régime du destin. On veut nous faire croire que le destin est inéluctable et que on ne peut faire que se plier à une dynamique qui s'impose. Moi, je vois que Facebook et ses suppôts sont de plus en plus dans le collimateur. Je vois que de plus en plus de gens renâclent pour laisser se développer la robotique de service nous annoncer pour un avenir prochain. Dans les hôpitaux, on n'est pas prêt vraisemblablement à accueillir les robots susceptibles de s'occuper des mamies atteintes d'Alzheimer, parce que
ils sont déjà là pour faire des opérations chirurgicales.
Ils sont là, Vinci est là, fait des opérations chirurgicales. Les radiologues sont sans doute condamnés, hein, parce que les machines sont bien plus performantes qu'eux. Mais je crois que il y a une prise de conscience, y compris chez ces gens. Il y a pas très longtemps, dans un congrès des radiologies, la naïveté du radiologue de base qui dit bah c'est très bien, si j'ai plus besoin de procéder à la lecture de mes images parce que j'ai des machines pour le faire, je vais pouvoir m'occuper de mes patients. Bon, c'est une naïveté qui ne trompe personne et qui conduit de plus en plus à se poser la question d'un changement fondamental.
Thierry Veil, sur cette inéluctabilité du changement et notre capacité ou notre incapacité à l'éviter, ou à le ralentir, ou à le réguler.
Les technologies sont toutes versatiles. Si vous aviez donné la pelle à l'homme de Néandertal, au lieu d'utiliser pour creuser des trous, il s'en serait servi pour taper sur son voisin. Et même l'invention du feu, il y en a qui faisaient du ragoût de mammouth avec, et d'autres qui allaient embêter son voisin de palier qui ne maîtrisait pas. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas d'utilisation déterministe des technologies, tout dépend de ce qu'on en fait. On peut mettre des robots d'une manière très bête et très infantilisante dans une entreprise, comme on peut les mettre pour au contraire stimuler la créativité. J'étais un peu étonné de ce que disait Jean-Michel sur les tiers-lieux, parce qu'il les voyait comme des lieux de résistance, alors que moi, au contraire, je vois de plus en plus des tiers-lieux, des Fab Labs, des ateliers de créativité se créer au sein des entreprises qui adoptent l'industrie du futur. Donc les mêmes technologies peuvent être utilisées d'une manière ou d'une autre.
Il y a peut-être une question sur laquelle je voudrais vous entendre l'un et l'autre, c'est la question des richesses produites, parce qu'évidemment, lorsque ces richesses sont produites de plus en plus par des robots, se pose la question de comment on répartit les richesses. Il y a une idée qui avait été avancée, on s'en souvient, durant la campagne présidentielle par Benoît Hamon, c'est l'idée de taxer des robots. Alors, c'est absolument pas une idée neuve, c'est une idée qui a été portée par un certain nombre de personnalités. Je pense à Stephen Hawking, je pense à Robert Shiller, le prix Nobel d'économie, je pense aussi à Elon Musk et je pense aussi à Bill Gates. On va écouter Bill Gates, justement, sur cette question de la taxation des robots.
Si vous prenez en compte le travail qui va être automatisé, le financement, la formation et l'épanouissement professionnel des gens qui partent faire tout autre chose, vous avez tout compris. Mais vous ne pouvez pas simplement abandonner l'impôt sur le revenu parce que cela fait partie de la façon dont vous avez financé le niveau de ces travailleurs. Une partie peut provenir des bénéfices qui ont été générés par la productivité de la main-d'œuvre, une autre partie peut venir directement d'une sorte de taxe sur les robots. Et je ne pense pas que les entreprises de robots seront indignées à l'idée qu'il puisse y avoir une taxe.
Voilà, donc Bill Gates qui défend cette idée de taxation des robots. Que vous inspire l'idée? On va commencer par vous, Thierry Veil. Et puis, au-delà de cette taxe pure sur les robots, il y a toute une question, comme je le disais, autour de la répartition des richesses. Comment on fait pour, face à cette montée en puissance des robots, des automates, de l'intelligence artificielle, pour redistribuer la richesse produite?
Alors, j'ai envie de prendre le problème dans l'autre sens.
Je vous en prie.
C'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup de richesses produites, parfois avec moins de travail humain, permet de se demander comment on va les répartir. Et il est, je dirais, il y avait deux idées dans la campagne de Benoît Hamon. L'une qu'on a, à mon avis, trop encensée, je dirais pourquoi, qui est la taxation des robots, et l'autre qu'on a un peu trop vite méprisée, qui était le revenu universel. L'idée que s'il y a beaucoup de richesses qui se créent, la moindre des choses est de veiller à tous ceux qui ne sont pas les gagnants de cette transition, qui souffrent, qui sont privés de travail momentanément, pour les aider ou compenser de manière beaucoup plus volontariste les pertes qu'ils ont, ça paraît une bonne idée. Alors, faut-il le faire ou non sous forme de revenu universel? C'est un débat qu'on a eu à Cerisy lors du dernier colloque sur le travail en mouvement. Des gens comme Jean-Baptiste de Foucault, très impliqué dans Solidarité Nouvelle contre le chômage, considèrent que a beaucoup de réticence à l'idée qu'on va donner un revenu inconditionnel et non lié au travail. Personnellement, je préfère l'approche de Louis Gallois, par exemple, et d'ATD Quart-Monde, de mettre en place territoire zéro chômeur de longue durée, en disant sur un petit territoire, on va prendre tout le monde, un par un, voir ce qu'ils savent faire, et leur trouver un emploi en partant de leur appétence, et découvrir que des gens qui sont chômeurs de longue durée peuvent effectivement faire un travail utile. Enfin, peu importe comment, d'une manière générale, il y a effectivement des richesses à distribuer, et il serait coupable, dans une période aussi turbulente, de ne pas dire la priorité, c'est de laisser personne sur le côté du chemin, puisqu'on peut se le permettre. En revanche, taxer les robots me paraît une très mauvaise idée, parce que ça voudrait dire ralentir l'adoption de ces robots par les entreprises. Or, les entreprises qui s'en sortent, qui se développent, qui embauchent et qui créent de l'emploi plus qualifié, sont celles qui font des robots. Qui utilisent des robots. Alors, on a parlé très vite, ou je vous ai mal répondu tout à l'heure sur l'emploi, mais les robots créent-ils de l'emploi ? Le premier effet, c'est qu'ils en détruisent, évidemment, si un robot fait une partie du travail que fait un humain. Maintenant, quand on regarde concrètement ce qui est arrivé, alors on a une statistique par exemple sur les PME qui ont bénéficié d'une procédure de BPI qui était un prêt, une aide pour acheter un premier robot, en moyenne elles ont fortement augmenté leur emploi. Pourquoi ? Parce que du fait qu'elles étaient plus compétitives, elles ont gagné des parts de marché, fait plus de chiffre d'affaires, et donc bien sûr, pour une même quantité produite, il fallait moins de travail humain, mais comme leur chiffre d'affaires augmentait plus vite que leur gain de productivité, elles ont embauché. Et plus des deux tiers de ces entreprises ont embauché 4 à 5 personnes, ce qui est substantiel. En fait, les effets sur l'emploi sont compliqués, parce qu'il y a l'effet primaire, qui on a besoin de moins de personnes pour faire la même production, l'effet secondaire, qui on prend des parts de marché, et ensuite, à qui est-ce qu'on les prend ? Est-ce qu'on les prend à l'entreprise de l'autre côté de la rue, auquel cas, au niveau économique, on n'a rien gagné ? Ou est-ce qu'on les prend à nos concurrents chinois ou brésiliens qui se seraient automatisés plus vite que nous, ou, c'est plus vrai pour les Chinois, auraient bénéficié d'un travail moins cher ?
Jean-Michel Beignet, sur cette question de la taxation des robots et du revenu universel, parce qu'on voit que les deux vont ensemble, Thierry Veil nous dit, moi, la taxation des robots, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que si on veut être compétitif, il faut pouvoir développer la robotisation. En revanche, le revenu universel, pourquoi pas ? Jean-Michel Beignet, est-ce qu'il faut taxer les robots ?
Non, je ne crois pas qu'il faille taxer les robots. Hein. Je prendrai la question peut-être par un autre biais.
Vous aussi.
Mais qui va compromettre également l'idée de revenu universel. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à dialoguer avec Alain Bensoussan, l'avocat assez connu, qui milite précisément pour que l'on alloue des finances à tout robot, pour précisément le rendre responsable et imputable en cas de problème, d'accident qui serait causé par les robots. La question étant, bon, qui est responsable lorsqu'un robot est impliqué, si on veut imaginez que ce soit le robot, il faut que le robot soit capable de rembourser les dégâts qu'il cause. C'est une idée qui fait de plus en plus son chemin et qui, vous voyez bien, associe pour une part l'idée d'un revenu universel, ou d'une allocation universelle en tout cas, et l'idée d'une taxation, mais qui me paraît complètement anthropologiquement ruineuse. Bon, d'abord, accorder la responsabilité juridique au robot me paraît très très discutable, même si on peut argumenter juridiquement la chose. Et puis, par ailleurs, ça me semble aussi miser sur l'idée que le travail n'est jamais qu'une source de revenus, qu'il n'est jamais rien d'autre. Un travail humain, ou un travail est humain parce que il implique autre chose que la production d'une richesse utile, et c'est un aspect du problème que l'on passe complètement sous silence lorsque on ne met que l'accent sur la productivité, sur le productivisme, et sur la production de richesses. Je crois que il faut reprendre un petit peu les choses à la base et se dire que le travail est aussi une valeur en soi, que nous sommes des homo faber avant d'être des homo laborans, comme disait Hannah Arendt, c'est-à-dire uniquement soucieux de produire de la richesse.
Thierry Veil, j'ai vu que vous vouliez intervenir, je vous demanderai une réponse courte, parce qu'ensuite on va se mettre à hauteur d'homme, à hauteur d'usine, en tout cas pour voir comment ça se passe très concrètement quand les robots arrivent justement dans nos usines. Thierry Veil.
Alors, réponse très courte, les robots n'ont pas de compte en banque. Donc, quand un robot permet de créer de la richesse, quelqu'un récupère cette richesse, que ce soit l'entreprise propriétaire du robot, le consommateur qui paye ses produits moins chers, etc. Donc, il y a de la richesse redistribuable pour s'occuper de ceux qui, peut-être momentanément, ne profitent pas du mouvement. Donc, oui, on peut redistribuer d'une manière ou d'une autre inconditionnellement, je n'y crois pas, ou avec beaucoup d'accompagnement pour que les gens puissent justifier sans être ni se sentir assistés de quelque chose qu'ils touchent, ce n'est pas en taxant le robot.
On est avec vous Thierry Veil et vous Jean-Michel Beignet dans cette série consacrée au travail, les nouvelles conditions aujourd'hui, métro, robot, dodo vers l'automatisation des travailleurs. On va parler justement de l'acceptation de cette robotisation par les salariés eux-mêmes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Les bras peuvent travailler ensemble ou en totale indépendance sur une, deux ou trois tâches. Ce bras pèse environ 15 kg, mais quand vous pressez son poignet, c'est comme s'il ne pesait plus rien, parce qu'il y a des moteurs qui suivent votre mouvement. Là, par exemple, il y a une pièce qui a été oubliée, alors il lève la main pour signaler à tout le monde qu'il y a un problème à régler.
Ce robot est sans danger pour la main, l'ouvrier ne risque pas de se blesser. Par exemple, si vous placez votre main là, il va doucement vous toucher, s'arrêter, et vous le redémarrez facilement après.
Il est à mes côtés et il m'aide bien dans ce que je fais. On travaille vraiment en équipe, et pour moi, ça devient plus facile et plus rapide.
Voilà, on travaille en équipe, nous dit cette salariée. On est aux États-Unis dans l'entreprise Stener Pump, extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France 2. Les cobots, les robots collaboratifs qui se multiplient un peu partout dans le monde. Bonjour, Marc-Éric Bobillier-Chaumont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM. On va s'intéresser justement à ces robots collaboratifs. Alors, il y en a tout le temps. On sort tout le temps de nouveaux robots. J'ai vu, par exemple, le 23 mai dernier, il y a l'Institut de recherche technologique mutualisée Jules Verne qui a présenté le Cobot Plus, qui est un robot collaboratif qui est destiné à rejoindre les chaînes de production d'Airbus. Mais on le voit un peu partout. Dans un cas comme celui-ci, par exemple, Cobot Plus, qui est destiné aux lignes d'Airbus, mais plus globalement, dans un cas général, d'introduction d'un robot dans une usine. Est-ce que les salariés sont associés à cette décision de faire intervenir ce type de robot et le périmètre d'action qu'on va lui confier ou est-ce qu'au fond, ils n'ont absolument pas leur mot à dire? Quand on est sur le terrain, à hauteur d'homme, à hauteur d'usine, qu'est-ce qui se passe, Marc-Éric Bobillier-Chaumont?
Alors généralement, enfin, c'est ce qu'on retrouve aussi dans tout projet technologique, mais aussi pour ces types d'innovations émergentes que sont les cobots. C'est vrai que les salariés sont rarement associés à la diffusion, à la conception de ces dispositifs technologiques. Certes, il y a, je dirais, une prise en compte, mais par rapport à ce qu'on attend du salarié, hein, dans ce qu'on pourrait appeler le prescrit du travail pour concevoir ces dispositifs. Il y a quelques simulations qui sont faites, mais le travail réel tel qu'il est fait, l'activité telle qu'elle est réalisée, les conditions de réalisation de ce travail sont rarement prises en compte, en fait. Mmh. Et donc, du coup, les gens se trouvent avec des systèmes qui, parfois, sont très éloignés de ce qu'ils font concrètement sur le terrain.
Si on prend un pays dont on dit souvent qu'il est très avancé en termes de robotisation, l'Allemagne, par exemple, et qui est un pays, je ne le prends pas tout à fait au hasard quand même, qui est un pays aussi où le dialogue social, dit-on, est assez poussé. Il y a ce système de cogestion par lequel les syndicats sont associés aux décisions des dirigeants. Dans ce cas précis, comment se passe cette cobotisation? Est-ce que les salariés ont davantage justement de poids dans les choix qui sont faits?
Alors après, il faut voir effectivement quel est ce type de dialogue. Est-ce que c'est au niveau des syndicats qui décident de la proportion du nombre de robots ou des tâches à automatiser, ou est-ce qu'il y a une association, une implication, un engagement des salariés dans la conception et dans la fabrication de ces robots? Parce qu'il faut bien voir, encore une fois, que ceux qui savent quel est le travail qui peut être, je dirais, partagé, hein, et pas réapproprié par le dispositif, ce sont quand même les salariés. Il y a l'idée, effectivement, que dans cette articulation intelligente entre l'homme et le robot, il faut qu'il y ait effectivement un ajustement, un co-ajustement entre l'action humaine et l'intervention technologique. Il faut que le cœur du métier, celui qui a du sens pour le salarié, qui donne du sens à l'activité qu'il réalise, lui reste. Et donc, je dirais, par rapport à cette problématique de négociation, si effectivement les salariés sont associés pleinement, alors là, il y a effectivement une implication réelle. Sinon, si ce sont des intermédiaires, hein, des corps intermédiaires, là, on est encore éloigné de la réalité du travail.
Oui, donc ça, ce sont les bonnes conditions, finalement, d'une intégration réussie de l'agent robotisé au sein de l'usine. Il y a évidemment une autre dimension, qui est celle de la réorientation aussi des tâches de l'ouvrier qui est impacté par cette intégration.
Tout à fait. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que le robot tel que l'exemple vous était donné, c'est vrai qu'il y a une sensibilité à l'activité humaine, et donc ça, c'est plutôt favorable, mais il faut voir aussi que le travail humain, c'est quelque chose qui est extrêmement instable, qui réagit aux circonstances, aux aléas de l'activité, donc il faut aussi que le robot puisse aussi s'ajuster à ses aléas et à l'activité de l'individu. Donc il faut qu'il soit à la fois approprié au travail de l'individu, mais aussi appropriable dans ces circonstances très malléables. Et donc c'est toute la difficulté dans la conception, c'est que les organisations, pas seulement pour les robots, mais on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle ou d'automatisation, ils ont un formidable moyen aussi pour reprendre la main sur un travail, sur la tâche qui échappait justement, qui leur échappait. Parce que les individus, encore une fois, développent des procédures qu'on pourrait qualifier de clandestines, mais en fait c'est pour mieux travailler, c'est pour bien travailler, c'est pour retrouver du sens dans ce qu'ils font. Et là, en l'occurrence, par la mise en place de ces robots, on a aussi la possibilité d'être certain que il y aura une application stricte des procédures de qualité, de fiabilité, qu'on pourra augmenter certaines performances. Et donc, le problème, c'est que cette vision très déterministe de la technologie, on voit l'individu comme une variable d'ajustement. Donc, il faut faire attention aussi pour que, effectivement, dans ces façons de faire, d'organiser, de penser son travail, qui va être profondément modifié par l'arrivée de ces techniques, il faut que ce robot soit ajustable aussi à l'activité de l'individu et à la réalité du terrain.
Et il faut qu'on laisse de la place, bien sûr, à la créativité, à l'innovation de l'individu. Exactement. Qui ne soit pas un simple exécutant, parce que sinon, on rentre dans un processus par lequel, au fond, l'individu devient quasiment l'assistant du robot, en tout cas du système mis en place, et pas l'inverse. Et ça, c'est pas bon.
Exactement. Ouais. Et ce que je dis parfois, c'est que ces systèmes dépossèdent à la fois un savoir-faire, un savoir-être, pour mieux posséder ces individus. On le voit par exemple dans les systèmes de voice picking, donc des systèmes qui ordonnent, vous savez, dans les centres logistiques.
Des automates qui parlent aux ouvriers.
Exactement, voilà. Les actions humaines. Et donc on abaisse la compétence à des savoirs simples et d'exécution. Donc effectivement, on réagit de manière très instinctive au système. Moi, ce que j'appelle une sorte de soumission à l'autorité technique. Et ce faisant, on voit effectivement que dans la gestion des ressources humaines, c'est très facile puisqu'il n'y a pas de créativité, d'innovation, de compétences à développer par rapport à une activité a priori complexe, mais simplement à mettre des gens qui vont obéir à ces dispositifs qui vont les guider et les orienter dans les tâches à faire. Donc effectivement, il faut que, encore une fois, l'acceptation de ces dispositifs, c'est le sens qu'ils ont dans l'activité. Il faut qu'elles donnent du sens au travail, en termes de pouvoir d'agir, en termes de responsabilité, en termes d'autonomie, mais pas une autonomie qui est prescrite aussi. C'est-à-dire que moi, je dois avoir aussi un cadre auquel je dois me référer, parce que trop d'autonomie, ça m'angoisse aussi. Il faut que je sache aussi où je vais, ce que je dois faire, et puis me donner peut-être des marges de manœuvre par rapport à ça. Et puis également, être en capacité de développer des compétences et de reconnaître aussi mon savoir-faire. Ouais. Et ça, c'est des facteurs de santé au travail.
Oui, l'autonomie, évidemment, ça peut causer du stress, parce que derrière l'autonomie, il y a de la responsabilisation, faut pas rêver. Donc, c'est aussi, évidemment, en lien direct. Vous restez avec nous, je voudrais faire intervenir nos deux invités, Jean-Michel Beignet et Thierry Veil, à propos donc de cette robotisation. Thierry Veil, on voit un peu les conditions par lesquelles, au fond, un robot peut être accepté ou non par les salariés, par les humains.
Tout à fait. Et dans l'enquête qu'on a faite sur des entreprises qui avaient, avec succès, qui s'étaient modernisées, qui avaient mis en place des robots, donc on a un biais de faire ce succès, c'est en général les plus performantes des entreprises qui ont fait participer leurs employés au choix des robots, qui ont défini, qui ont redéfini les tâches en fonction de la possibilité du robot. Donc toute machine, ça peut être une machine que l'homme sert comme un servant de machine ou un outil pour l'homme pour se prolonger. Et donc on a même été un peu plus loin, on a proposé, François Perrin et Marie-Laure Caillé, qui sont les auteurs de l'étude qu'on va publier en septembre, ont proposé le concept de design du travail, c'est-à-dire qu'on a beaucoup progressé pour concevoir les produits ou les services avec leur utilisateur. Il s'agit de faire la même chose en concevant les processus de production avec les producteurs pour que justement la manière de produire leur convienne. Mmh. Et même dans l'ergonomie des robots, on voit de plus en plus les anciens robots ou cobots devaient être programmés par des gens très spécialistes qui maîtrisaient un code spécial, etc. Aujourd'hui, on voit des robots qui dont l'apprentissage est fait par l'opérateur. C'est-à-dire l'opérateur les guide, les prend par la main, si j'ose dire, ou par le bras robotisé, pour leur montrer la tâche à faire. Mmh. Et c'est un opérateur sans aucune qualification de programmation qui indique au robot, assigne au robot ou au cobot la tâche qu'il doit faire.
C'est lui qui lui apprend. Jean-Michel Beignet, que vous inspire tout ça? On voit, on nous explique les conditions par lesquelles, au fond, ces robots peuvent être bien intégrés parmi ses collègues humains. On voit comment nous sommes tous de plus en plus plongés dans un environnement automatisé, robotisé. On s'adresse à des enceintes connectées, etc., etc. Est-ce que ça vous inquiète, cette cohabitation de plus en plus poussée avec les robots? Est-ce qu'il y a peut-être des effets inattendus de cette cohabitation prolongée avec des robots, Jean-Michel Beignet?
Je me demande si on a vraiment rompu avec ce verdict qu'on entendait prononcer au début du XXe siècle, lorsqu'on disait qu'au fond, dans une entreprise, le maillon faible, c'est l'homme. Ça a été dit et répété, et ça a justifié, évidemment, le machinisme. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, si on est en train d'orchestrer la collaboration entre le robot et l'humain, on pourrait se dire, non, finalement, l'humain reste un maillon fort dans le dispositif des entreprises, et tout va bien. On est en train de rester quand même aux commandes. Mais on pourrait aussi bien se dire que, après tout, cette coopération ou collaboration, elle est transitoire. Que actuellement, l'humain est en train d'apprendre au robot, mais chacun sait que le robot apprend très très vite.
Quoi, vous nous annoncez que les robots vont prendre le pouvoir, Jean-Michel Beignet?
Oui, tout à fait. Il y a aucune raison de ne pas l'imaginer. Je me souviens d'un documentaire qui était assez pathétique, qui se passait chez Amazon, où on montrait un employé, un manutentionnaire, qui était en contact avec un robot. Et ce robot, il avait la vertu de parler, comme Alexa ou Siri peuvent parler aujourd'hui. Et on interrogeait cet individu humain, en lui disant, mais qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec un robot? Il dit, je me sens moins seul. Et donc, c'était proprement pathétique, quoi, ce pauvre homme qui faisait quelque chose qu'il allait devoir cesser de faire parce que le robot allait tout à fait bien le faire et qui s'accrochait à la parole mécanique instruite par l'intelligence artificielle.
Je vais en rajouter une petite couche, Jean-Michel Beignet, si vous le permettez, parce que les neurobiologistes aussi nous apprennent des choses intéressantes sur la fréquentation des robots. Justement, ils nous disent que quand on interagit avec un robot, ça sollicite dans le cerveau les mêmes aires que l'accomplissement d'automatisme. C'est-à-dire que fréquenter des robots vous transforme vous-même en automate. Désolé pour la mauvaise nouvelle.
C'est ce que j'avais voulu développer dans L'Homme Simplifié. She's a black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows.
Un grand merci à Marc-Éric Bobillier-Chaumont qui était avec nous à l'instant par téléphone. Pour les auditeurs qui veulent aller plus loin, je rappellerai que vous avez co-dirigé cet ouvrage Changement organisationnel et technologique, nouvelles pratiques de travail et innovation managériale, c'était chez L'Harmattan. Un grand merci également à vous Thierry Veil. Je rappellerai vous concernant un ouvrage collectif également, Portrait de travailleur, comprendre la qualité de la vie au travail. Jean-Michel Beignet, un grand merci également d'avoir été avec nous ce matin. Les robots font-ils l'amour, le transhumanisme en 12 questions, mais aussi L'Homme Simplifié, sous-titré le syndrome de la touche étoile. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, ce syndrome de la touche étoile, mais on y reviendra, parce que c'est très à la fois inquiétant, mais en même temps assez amusant. C'était chez Fayard. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Encore un domaine où les robots s'apprêtent à remplacer les hommes, celui de la guerre. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en effrayer?
Vous l'avez dit, intelligence artificielle, systèmes autonomes, informatique ubiquitaire, ces technologies vont avoir des effets tellement disruptifs sur les affaires militaires qu'il va falloir les repenser complètement. Une révolution militaro-technique est en cours, une fois de plus, vous me direz, et des spécialistes ne cessent d'alerter les gouvernements sur le retard pris par la pensée stratégique de leurs pays respectifs. Tel est notamment le cas de Christian Brose, un ancien haut fonctionnaire du Sénat des États-Unis, ex-speechwriter de Condoleezza Rice. Il vient de publier un article intitulé « La guerre de science-fiction de l'avenir » publié dans la revue Foreign Affairs. Alors, première observation, ce qu'on appelle la chaîne de frappe, le processus consistant à identifier, viser et atteindre une cible, a déjà connu une accélération prodigieuse. Et là, c'est pas de la science-fiction. Les Ukrainiens ont eu l'occasion d'observer l'extraordinaire vitesse avec laquelle les Russes parviennent à identifier leurs mouvements et la redoutable précision de leurs frappes d'artillerie. Mais la grande révolution à prendre en compte, c'est celle des capteurs et de l'Internet des objets. Il va devenir de plus en plus difficile, prévient Brose, de pénétrer un espace quelconque sans être immédiatement détecté. On a dorénavant les moyens de repérer l'attaquant à une très grande distance et à garantir une surveillance globale en temps réel. Et cette tendance va être accélérée par la prolifération des petits satellites de nouvelle génération. Il y en aura bientôt des centaines capables de déceler le moindre mouvement. Conclusion, les technologies dites « furtives » censés indétectables, sur lesquels ont beaucoup misé les USA, sont menacés d'une rapide obsolescence. L'utilisation de capteurs quantiques, une technologie qui ne sera disponible que dans plusieurs années, permettra de déceler les déplacements d'air produits par les avions ou les mouvements marins provoqués par les sous-marins. Mais d'ores et déjà, la prolifération de capteurs numériques produit d'énormes masses de données qui, elles-mêmes, à leur tour, appellent des capacités de traitement dont seules sont capables des intelligences artificielles. L'espace apparaîtra de plus en plus comme un terrain de manœuvre essentiel. La guerre des étoiles, dont menaçait l'URSS un Ronald Reagan qui n'en avait nullement les moyens à l'époque, va cesser bientôt d'être un vaste bluff. L'avenir est aux munitions hypersoniques et aux armes basées dans l'espace. Il faut intégrer l'idée qu'il n'y aura plus à l'avenir ni d'arrière, ni d'espace sécurisé. Et c'est une révolution conceptuelle. Autre révolution, les réseaux de communication sont devenus extrêmement vulnérables. La tendance est donc à autonomiser au maximum des systèmes nombreux déployés sur les terrains d'affrontement. Ils doivent être capables de collecter et de traiter les informations qui leur sont nécessaires sans être nécessairement reliés en permanence à une plateforme de commandement. Enfin, l'interface cerveau-ordinateur permet à un très petit nombre d'opérateurs de mettre en œuvre à distance l'action conjuguée d'un grand nombre de drones simplement en pensant à ce qu'il attend d'eux, pour ne donner qu'un aperçu de tout ce à quoi on peut s'attendre dans un avenir très proche.
Et alors Brice, quelle conclusion peut-on tirer de tout cela sur le plan des stratégies, sur le plan stratégique ?
D'abord, l'idée qu'une armée puisse à l'avenir faire progresser des forces à l'intérieur des positions avancées de son adversaire sans être repérée et entamer les hostilités au moment choisi par elle, cette idée en prend un sérieux coup. C'est pourtant ce qui a dominé la pensée stratégique américaine dans la conduite des guerres menées ces dernières années au Moyen-Orient. Or, les ayant bien analysés, la Chine comme la Russie ont développé des capacités d'interdiction d'accès qui rendent assez improbable l'arrivée militaire des Américains pour venir défendre, mettons, un de leurs alliés menacé ou attaqué. Et cela va poser toujours, selon Christian Brose, un problème de crédibilité pour les Américains lorsque leurs alliés vont en prendre conscience. Par ailleurs, l'ambition affichée par la Chine de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle a évidemment des implications militaires. Les États-Unis feraient bien de se réveiller, car ils sont en train de se faire distancer dans ce domaine stratégique. Christian Brose estime que la position des États-Unis face à la Chine se détériore en effet rapidement, d'autant que le gouvernement américain continue à dépenser énormément d'argent dans des équipements déjà dépassés, sans repenser sa stratégie d'ensemble en fonction des avancées technologiques récentes ou à venir. Cela fait des décennies que le Pentagone s'équipe, par exemple, en avions de chasse ou en porte-avions de plus en plus sophistiqués et donc très coûteux, alors même que ces moyens militaires considérables sont probablement déjà obsolètes. Il ferait mieux de travailler, ce gouvernement, à l'acquisition de systèmes d'essaims de machines intelligentes et autonomes, dispersés mais coordonnés entre elles. De tels équipements, parce qu'ils ne sont pas coûteux justement, peuvent être sacrifiés en grand nombre et ils permettraient, en cas de conflit, d'économiser les vies humaines. Car de plus en plus, ces machines peuvent se passer de la présence effective de combattants. Et ça, c'est bien la seule bonne nouvelle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.